Coucou à vous, nous sommes le samedi 2 novembre, je voudrais vous faire des gros bisous, des gros câlins. Nous sommes en direct sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4, votre fréquence préférée. Ce n'est pas la peine de changer de fréquence, soyez vigilants, faites attention si vous êtes sur la route, il y a des radars, respectez bien les limitations de vitesse et les limitations de sécurité également, c'est très important. Et nous vous faisons des gros bisous. Nous sommes en direct depuis la foire d'automne, la foire de la Toussaint, de la Réole, et j'ai trois invités dans ces émissions, dans cette émission C'est beau, c'est bon. J'ai Nathalie qui nous vient du Pays Basque, j'ai Tchomi qui nous vient également aussi d'un autre Pays Basque, et j'ai Pedro qui nous vient également, alors lui il a un papa et une maman italo-espagnol. Donc on a un pur produit du bassin méditerranéen. Pourquoi j'ai invité ces trois personnes? Bien parce que ces trois personnes sont sur le marché gourmand de la Réole et proposent des produits traditionnels. Et je vais commencer par Nathalie, qui sera mon guide pour cette émission, puisqu'elle a un sourire communicatif, elle a un sourire délicieux, c'est tout le visage sourit, les yeux se ferment, bref, elle est adorable. Ce qui est adorable, c'est ce qu'elle produit, c'est ce qu'elle réalise et c'est ce qu'elle propose dans ce marché gourmand. Une recette absolument exceptionnelle, une recette de gâteau basque. Alors, le gâteau basque a été revu, corrigé, industrialisé, essayez de balayer tous les clichés négatifs de ce que l'on trouve dans les stations-service le long de l'autoroute. Pensez à un gâteau basque non pas rond, mais rectangulaire, épais, à la cerise. Alors je dirais que vous enlevez le mot gâteau et vous laissez le mot cerise, avec cette cerise noire du Pays Basque exceptionnelle et l'équilibre entre la pâte croustillante. Alors, bien entendu, elle l'est peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a de l'humidité, il a fait un temps merdique, on peut le dire, il a fait un temps pourri depuis hier, mais son gâteau reste indissociable de la qualité. Que ça soit le gâteau à la cerise basque ou le gâteau à la crème traditionnelle, eh bien vous ne repartirez plus chez vous avec une autre idée. Alors essayez d'imaginer, vous mettez un morceau de gâteau dans la bouche, vous appuyez la langue au palais, vous fermez les yeux, vous prenez la main de celle que vous aimez, vous lui dites je t'aime, même si c'est Nathalie, elle est avec sa fille, et là vous remuez la langue sur le palais, et là tout va éclater, tout va s'épandre, se répandre d'une façon régulière et d'une façon gentille. Moi, cette recette, j'ai envie de la connaître, mais ne la donnez pas, Nathalie, parce que c'est une recette familiale qui date de votre grand-mère. Nathalie, vous nous arrivez d'où? De quel coin êtes-vous dans le Pays Basque, dans ces Landes? Et comment avez-vous eu l'idée de faire cette recette de votre grand-mère pour en donner la possibilité à une multitude de personnes de pouvoir en déguster, en acheter?
Bonjour Gérard, bonjour à tous. Donc moi je viens du Pays Basque d'Itsassou, le village de la cerise noire. Alors comment nous est venue cette idée? Eh bien en fait, mon cousin est pâtissier. Et puis moi je cherchais une reconversion professionnelle, puisqu'avant j'avais une boutique sur le Pays Basque où je vendais des objets traditionnels et je travaillais avec des artisans d'art. Et cette reconversion, j'ai eu envie de partir sur les marchés, et cette reconversion je l'ai faite avec mon cousin Bichente, voilà, qui lui est pâtissier et surtout puriste. On a eu l'idée de reprendre la recette de notre Amachi, tout simplement. On a fouillé dans ses cahiers, on a retrouvé
de qui
de notre Amachi, de notre grand-mère en
Amachi
basque.
Amachi en basque.
Et nous, on peut dire qu'on ne fait pas du gâteau basque, on fait l'Etxeko Bizkotxa. Etxeko Bizkotxa en basque, c'est le biscuit du Pays Basque, le gâteau du Pays Basque, celui qu'on faisait, celui qui sortait des fourneaux et qui était bien épais, bien riche en crème, en cerises. On travaille toujours la cerise traditionnelle, on travaille avec des partenaires d'Itsassou qui nous vendent leurs cerises. On réserve nos cerises d'une année sur l'autre. Il faut savoir que c'est une toute petite production, la cerise, et que c'est très très compliqué d'avoir de la cerise pour faire notre confiture. C'est pour ça que nous, on travaille avec des partenaires et que d'une année sur l'autre, on réserve notre cerise. Alors une année est bonne, l'autre moins, on fait nos pots de confiture et on travaille d'une année sur l'autre. Et si on n'a plus de cerises, eh ben, on arrête d'en faire. Heureusement pour nous, on a quand même toujours un peu de stock et on fait ce gâteau traditionnel, donc à la cerise noire et aussi à la crème pâtissière. Mais il faut savoir que autrefois, le gâteau basque au Pays Basque se faisait avec les fruits du jardin. Traditionnellement, le dimanche, la femme faisait son pâton et demandait à son chéri d'aller au verger, puisque c'est une région très rurale, hein. Il y a beaucoup de ruraux au Pays Basque.
Bien sûr, et on dit bien le fermes. Pays Basque.
Voilà,
tout c'est à fait. C'est pas une région,
oui,
c'est ce pays.
Avec une langue basque, voilà. Et donc, on faisait le pâton traditionnellement. La maman faisait le pâton et mettait les fruits du jardin. On faisait une compotée de fruits qu'on mettait dans ce gâteau. Et ce gâteau, c'était vraiment le gâteau traditionnel du dimanche.
Alors, est-ce qu'on suivait la recette en fonction des fruits, en fait ?
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'on avait comme fruits au départ ?
Alors, on avait les fruits de saison, en fait. Et quand l'hiver, en plein hiver, on n'avait pas de fruits, on y mettait parfois de la pâte de coing.
Ah.
Donc c'était un gâteau qu'on pouvait faire aussi à la farine de maïs comme on fait les talots au Pays Basque, si vous connaissez. Donc c'est vraiment une farine qui était très riche, et là pour le coup le gâteau basque il était bien rassasiant, on va dire.
J'imagine, la pâte de coing, que c'est bon, c'est une véritable tuerie, mais la vraie pâte de coing. Alors d'ailleurs je signale que nous avons ici monsieur Brossard, le chocolatier de la Réole, qui propose des pâtes de fruits traditionnelles. Il y a framboise et pommes. Je peux vous assurer que ces pâtes de fruits sont exceptionnelles. Donc, on cuit ça dans un four, mais t'as un four professionnel alors ?
Ah oui. Nous, à l'heure actuelle, on fait des plaques de 60 par 40 pour se démarquer un peu de tous les gâteaux basques industriels qu'on peut trouver sur les marchés et autres lieux. Donc, c'est notre marque de fabrique. La cerise sur le gâteau fait du gâteau basque en plaque de 40 par 60.
Ça fait combien de kilos de pâte dans une plaque ?
Ça fait, alors, le gâteau fait 8,5 kg. Il faut 1h30 pour cuire un gâteau basque de cette taille. Voilà.
Tu cuis ça dans quel type de four ?
Un four traditionnel de pâtissier.
Oui, d'accord.
Voilà. On a un labo et on travaille tous les deux. Alors, mon cousin étant pâtissier, c'est lui qui se charge de du gros travail. Moi, je fais souvent la crème pâtissière, des choses comme ça. Mais moi, je m'occupe surtout de la vente. Voilà.
D'accord, très bien. Ça, c'est génial. En tous les cas, on est très heureux de te recevoir. C'est vendu au poids, bien entendu. Donc, on découpe le gâteau.
Voilà.
C'est vendu 21,90 €, je crois.
Voilà. Alors, aujourd'hui, pour la foire, on l'a passé à 18 €. Voilà. Pour régaler tous les gourmands, voilà,
le
pour que tout le monde puisse se faire plaisir.
Tout en sachant qu'un kilo, c'est quand même...
Ça fait une part pour 6-8 personnes.
6-8 personnes, vous vous rendez compte, ça fait 2,50 €, 3 € le prix de la part. Et là, je précise que c'est toute taxe comprise, sans colorant, sans conservateur. Et quand vous allez aux toilettes, il n'y a pas l'alphabet qui sort de votre petite paire de fesses. Il n'y a que des produits naturels, des œufs, de la farine, du sucre, de la confiture. Et ça a été fait avec amour.
Voilà, alors,
et c'est ça qui est important.
Voilà, je précise, Gérard, que dans notre gâteau, nous ne mettons que des œufs cassés à la main. En fait, notre marque de fabrique, c'est de faire vraiment le gâteau comme le faisait notre Amachi, c'est-à-dire de A à Z, on fait tout traditionnellement, le plus simplement du monde et avec tout notre amour.
Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct à la foire de la Réole. De temps en temps, je voudrais saluer la SNCF, puisque nous sommes à côté de la voie de chemin de fer. Et apparemment, il y a des trains qui roulent. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques conducteurs qui ne font pas grève, qui ont du plomb dans la cervelle et qui ont compris qu'il fallait quand même reprendre de temps en temps le travail et de se satisfaire un petit peu de ce que l'on avait quand même aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'eux qui travaillent en France. Il y a des gens qui sont là aussi. On est sur un long week-end. Eh bien, tous les artisans, tous les producteurs, tous les fabricants sont présents ici. Eh bien, il y a des trains qui roulent. Merci aux conducteurs de train de la SNCF. Nous saluons Mamie Rail et nous saluons la venue du nouveau PDG qui, bien entendu, ne servira à rien puisque la SNCF ne peut pas se diriger. La SNCF se dirige avec les syndicats, pointe à la ligne. Voilà. Donc, on parle de gâteau basque et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, tu fais combien de marchés par an, ma petite Nathalie ?
Alors, moi, je fais 5 marchés
par semaine.
5 marchés locaux, voilà, tout autour de mon village. Donc, en Beaulieu-les-Bains, je m'en vais un petit peu dans les Landes, sur Amou, là, qui est un village que j'affectionne beaucoup. Je fais Salice de Béarn, qui a été touché par...
Salice de Béarn, voilà, que l'on salue. Oui. L'année dernière, j'étais avec eux. Il y a eu cette inondation, le Gave qui a débordé. Salice de Béarn, qui est d'ailleurs intéressant parce que c'est avec le sel de la saline de Salice de Béarn que l'on peut saler le jambon de Bayonne qui est en indication géographique protégée.
Tout à fait.
Si vous ne savez pas quoi faire un dimanche, allez dans le Béarn et allez vous balader à Salice de Béarn. C'est un village absolument magnifique et merveilleux avec une population généreuse, gentille. Il y a un hôtel magnifique, l'hôtel du Casino qui appartient à Barrière, un hôtel à l'ancienne et puis les thermes qui sont absolument magnifiques. On peut se balader dans le village, c'est fleuri, il n'y a pas de voiture dans le village, il n'y a pas de trottinette, on n'est pas à Paris, il n'y a pas de skateboard, il n'y a rien. Il y a juste à ouvrir les yeux et dire putain qu'est-ce qu'on est bien dans la ruralité quoi. Salice de Béarn ensuite.
Salice de Béarn, je fais Cambeau-les-Bains.
Cambeau-les-Bains, bien sûr.
Qui est le pays du gâteau basque hein, quand même. Hein, la naissance du gâteau basque, c'est Cambeau-les-Bains. Je fais Peyrorade. Et le dimanche, donc à Mou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un petit village landais très agréable.
Donc c'est la première fois que tu venais à La Réole ici?
Pour La Réole, c'est une première, oui.
Donc ça a été, c'est normal, donc c'est pour ça que ça a été arrosé hier.
Voilà.
Nous avons arrosé l'arrivée de Nathalie et de son fameux gâteau basque, de sa mamie que nous respectons. Elle est toujours en vie, cette
mamie? Non, malheureusement non.
Mais elle est très fière là où elle est, elle brille au firmament, elle est à l'Orient éternel, et elle comprend que sa petite fille eh bien, continue de perdurer la tradition et de nous faire partager cette recette. Elle est fière là-haut, elle t'envoie cette force et cet amour.
Merci.
Alors, l'autre basque que j'avais reçu, qu'est-ce qui devient?
Toujours pareil, on est présent ce week-end à la foire à la Toussaint, du coup c'est une première aussi pour nous. Parce qu'on est rentré du coup il y a un mois et demi
de la transhumance
dans les Pyrénées. Nous rentrons chez nous en Gironde.
Je rappelle que j'avais reçu ce brave garçon avec son épouse. Il faisait une transhumance de plus d'un mois, un mois et demi je crois.
Ouais, 3 semaines exactement.
3 semaines ouais. De transhumance sur 240
km 300 km.
300 km ouais. De transhumance.
On traverse 6 départements. Ouais. Les Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, Gers, les Landes, Dordogne et Gironde.
On vendait pas le fromage dans les Pyrénées. Hein.
Non. Dans les Pyrénées, on évite. Mais après, oui, sur le retour, du coup, c'est une occasion pour nous, de tous les midis, tous les soirs, de monter le stand. Et...
Donc, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Transhumance, plus de 500 brebis.
Voilà, du coup, mon père a commencé il y a à peu près une trentaine d'années avec une centaine de brebis. Et du coup, je me suis installé avec lui il y a 8 ans. Du coup, on a augmenté le troupeau à 550 têtes. Et là, du coup, on fait tout à la main, la traite à la main, le fromage à la main, fabrication artisanale, du coup, à la maison. Et après, on vend nos fromages du coup en direct ou sur les marchés un peu de producteurs ou les marchés gourmands.
Donc, c'est du fromage au lait de brebis,
ouais.
Au
pâte
lait
cuite.
Cru.
Ouais.
Donc, c'est une pâte cuite, on est bien d'accord.
C'est
Est-ce
ça.
Que vous faites également de la recuite pour faire le breuil ou le greuil?
Non, avant, on voulait le faire, mais bon, avec les quantités de lait qu'on a et le temps qu'il faut après pour faire chauffer le lait pour sortir 3 kg de fromage.
Rappelle quand même, et ça, c'est important. La quantité de lait que produit sur une journée, c'est-à-dire la traite du matin, la traite du soir, une brebis sur une journée.
Bon, on est en gros chez nous, bon, on les booste pas non plus, donc on doit être à peu près entre 0,7 et 1 litre de lait par brebis. Quoi.
Donc entre 70 centilitres et 1 litre ouais. De lait par jour voilà. Sur une brebis. Donc vous comprendrez que sur 500 brebis, ça fait 500 litres de lait.
Quasiment, oui.
500 litres de lait. Si on tient compte que l'on va extraire 10 à 12% de fromage, on a 50 kg de fromage quotidiennement.
C'est à peu tout. Près, oui.
En gros, hein,
oui, en gros, c'est ça, ouais. Il nous faut à peu près, enfin, on a quand même calculé la matière grasse, du coup, nous, il nous faut à peu près 4 litres et demi de lait pour faire 1 kg de fromage. Alors qu'en vache et en chèvre, du coup, il en faudrait quasiment le double. Quoi.
Bien sûr,
parce
bien sûr.
Parce que le brebis, c'est le lait le plus riche, et du coup, il y a beaucoup de matière grasse. Et...
Complètement, beaucoup de matière grasse, donc c'est ça qui est important. Donc rendez-vous compte, et j'espère que vous comprendrez pourquoi le prix de vente d'un kilo de fromage au lait de brebis n'a rien à voir avec le prix de fromage d'un lait de vache, d'une vache qui va produire 30 fois plus de lait,
ouais.
C'est-à-dire 30 litres.
Oui, c'est ça, à peu près 30 litres.
En gros, sur une traite du matin, une traite du soir, 30 litres de lait, donc 3-4 kilos de fromage. Donc tu affines ce fromage, tu le fabriques, tu le vends à partir de combien de semaines ouais. D'affinage L'affinage alors
ouais, l'affinage, c'est
l'affinage est le laps de temps qui s'écoule entre le jour de la fabrication d'un fromage et le jour de sa commercialisation.
C'est ça.
Minimum combien de mois
Le nôtre, on est au moins 5-6 mois.
5-6 ouais. Mois.
Bon, après, il y a des gens qui viennent plus tôt parce qu'ils me disent qu'ils le préfèrent jeune. Mais après, gustativement et tout, je pense que 5-6 mois, c'est l'idéal pour un fromage de brebis.
Rendez-vous compte, 5-6 mois de travail. Et quand je vois... le prix de vente de ce fromage, je me dis quelque part, j'ai un peu honte de le payer si peu cher. Parce que le travail de retourner les fromages tous les jours, de les brosser, de les saler, c'est un travail pénible. Alors quand je vois quelquefois dans certaines professions les gens qui se plaignent en disant on a un travail pénible, vous c'est un travail pénible. Il n'y a même pas de congé parce que qu'est-ce qu'on fait quand les brebis ont du lait? Qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé de les traire tous les jours. Alors bien sûr il y a la période... de la reproduction.
À la reproduction. Mais bon, pendant la reproduction, il faut quand même s'occuper de la bergerie, rentrer le foin, nettoyer la fromagerie.
Exactement. Et là, il n'y a pas de société d'intérim qui va t'envoyer quelqu'un, là.
Hein. Non, mais il y a des services de remplacement. Mais bon, quand on leur dit qu'on fait la traite à la main, la fabrication à la main, il n'y a personne qui veut venir. Hein.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Trop de complexe. Quoi.
Imaginez l'entretien de 500 brebis qui vont mettre bas aussi après.
Ben là, elles vont mettre bas dans un mois et demi, elles vont commencer là à peu près.
Oui, puisqu'on l'avait déjà dit dans l'émission, voilà. C'est 555, voilà. 5 mois, 5 jours, 5 heures.
C'est ça.
Les brebis comme
après,
les chèvres.
On a une race très rustique, du coup, on a les brebis du Pays Basque, du coup, la manège tête noire et la brebis du Basque Auvergne. Et après, on fait un croisement entre les deux, du coup, pour qu'elles soient rustiques. Mais après, on a souvent qu'un agneau par brebis. Du coup, on n'a pas trop de difficultés à la mise bas. Et c'est des super mères, et voilà, après elles profitent tellement parce qu'on a une centaine d'hectares, du coup elles sont tous les jours dehors, on n'a pas de clôture du coup.
Elles sont tous les jours dehors. Elles sont libres, voilà. Comme disait le chanteur,
c'est ça.
Il est libre, Max.
Et vous parlez tout à l'heure des glands, mais elles adorent ça, oui d'ailleurs.
Il y en a même qui l'ont vu voler. Ah ben oui, c'est bien. C'est...
Ah oui. Là, c'est la saison des palombières, du coup on essaye de les cantonner là où il n'y a pas les palombières. Parce
que... Ah oui, bien sûr, oui, ça va les effrayer un peu, ouais. Sinon elles vont courir partout. Eh bien écoute, on va faire une petite brève médicale, on voudrait vous souhaiter un très bon samedi, apparemment il fait beau. Les résultats viennent de tomber, donc l'Afrique du Sud est championne du monde de rugby, l'Angleterre est en train de pleurer devant son Brexit, donc on va les laisser faire tranquille. Écoutez, de toute façon, hein, premier donc Afrique du Sud, deuxième l'Angleterre. Troisième, Nouvelle-Zélande. Et ben voilà. Puis et ben, nous, on va se préparer, puisqu'en 2023, la Coupe du Monde de rugby aura lieu en France. Donc nous allons devoir faire du travail, parce qu'il faudra savoir accueillir, savoir recevoir, savoir sourire, savoir être à l'écoute de l'autre et recevoir des milliers de personnes de différentes nationalités. Je demande également à la SNCF de ne pas déposer un préavis de grève en 2023 pendant la Coupe du Monde de rugby. Mais ils sont capables de le faire avec Sud Radio, avec FO, avec la CGT. On a le droit de se défendre. Mais je sais que l'image que l'on a de la France à l'étranger, c'est on est en grève. Voilà, voilà. Donc, allez, un petit encart musical. Allez, c'est parti. Merci Damien. Je voulais remercier Damien qui est là avec nous, qui ne sait pas non plus ce que c'est que le week-end et qui travaille dur pour la radio. Merci Damien d'être avec nous. Ça, il faut le dire, il y a des gens qui ne comptent pas les heures, qui ne comptent pas les jours et qui se disent, eh bien non, il y a de la radio, on va la faire, on y va. Il fait pas beau, eh bien le soleil brille sur la radio de l'Entre-deux-Mer 98.4. Don't choose anything, I'm your chum, I'm your buddy.
I'm your chum, I'm your...
Un peu de musique, ça swing avec la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Nous étions avec Nathalie pour le gâteau basque et le gâteau pas n'importe quel, le gâteau de sa mamie, de sa grand-mère, et puis le fromage à base de lait de brebis de la région de la Réole, bien entendu. Parce que tu es installé où ? Ayas. Ayas, donc on peut venir chez toi. On peut venir acheter du fromage. Tu fais des marchés aussi ?
Du coup, on fait des marchés de producteurs et on fait des marchés aussi de gourmands. Et puis là, je voulais du coup voir Monsieur Marty là, si on pouvait peut-être se mettre sur le marché de la Réole samedi matin. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, comme on habite à 7-8 km, ce serait l'idéal.
Eh ben, nous souhaitons complètement que que cette idée, que cette envie, que ce besoin soit concrétisé très rapidement et que l'on puisse trouver toutes les semaines, le samedi matin, sur le marché de la Réole, votre fromage de.
Et j'aimerais aussi essayer d'essayer de me placer pour la foire à Bordeaux là, pour le concours de fromage, du coup, parce que mon père l'avait fait il y a une vingtaine d'années. Il avait fini deuxième ou troisième, je crois. Du coup, vu qu'il lui prend la retraite l'année prochaine, j'espère qu'on va. Continuer ma femme
concours,
et essayer de.
Ton concours voilà. et l'élève fera mieux que le maître.
Ben, on essaiera.
J'en suis persuadé. J'espère.
Bon, après, on essaie de faire comme lui a décidé aussi de faire. Hein. Ouais. Je n'ai pas mis de tout changer parce que c'est sa tradition et sa passion, moi aussi. Mais c'est voilà, vrai. Du coup, on va continuer comme il a fait et puis on va essayer de grandir un peu plus et surtout vivre et survivre.
Oui, vivre et survivre. Non, mais c'est important ce que tu viens de dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte ce que c'est que d'être éleveur, ce que c'est que d'être agriculteur, l'entretien de 500 brebis, les traire. Alors on disait c'était 2 heures la traite le matin, 2 heures l'après-midi, enfin 2 heures le soir.
4 heures, 4 heures de traite à peu près, 2 heures et demie de fromage par jour, sans compter le fourrage, le nettoyage. Voilà. Puis après il y a les enfants, et l'école, et la maison, le ménage. Oui, c'est des bonnes journées. Oui. Entre janvier et juin, on doit dormir 4-5 heures par jour. Quoi.
Ouais, rendez-vous compte. Voilà. Compte. Mais bon, il y a des gens qui abusent du droit de grève. Je dis bien qui abusent.
Ouais, bon, après,
le droit de grève, je le respecte, c'est la liberté de chacun. Chacun peut, bien entendu, défendre ses intérêts dans l'intérêt commun. Mais il y a des limites quand même, quelquefois, on se pose des questions.
Ouais, bah voilà. Oui. C'est un peu comme les métiers comme la restauration et tout, c'est pareil, ils travaillent quand les gens se reposent.
J'ai jamais pointé pendant 50 ans quand je travaillais, même outre-mer, quand j'étais prof en école hôtelière, on se levait le matin, on n'allait pas pointer, on ne calculait pas nos heures, je ne les ai jamais calculées et on ne se pose pas de questions. Je veux dire, il n'y a pas que certaines professions, que certaines corporations qui souffrent. Je voudrais saluer les Facebookiens, les Facebookiennes qui nous regardent et saluer le Gavroche réunionnais à l'île de la Réunion. On lui fait des gros bisous. Bientôt, on va bientôt voir du vin réunionnais en métropole. Et oui. J'aime bien cette émission aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est au sud. On est au sud et on continue d'aller au sud, mais elle est encore plus au sud d'au sud. Parce que quand on a des parents italo-espagnols, eh bien, on a envie de parler de charcuterie et de fromage. J'ai Pedro qui est avec nous. Bonjour. Pedro qui représente une maison que j'aime beaucoup, Michel Ibanez, qui est un spécialiste de tout ce qui est produit de qualité venant d'Espagne. Alors j'aimerais que tu nous expliques, Pedro, un petit peu. D'abord, présente-nous Michel qui n'a pas pu venir, qui a eu des petits soucis de transport. Il est dans la région de Limoges, pas très loin de Bordeaux quand même. Mais il est un dénicheur de produits et de produits de grande qualité, que ce soit de la charcuterie, que ce soit du fromage, que ce soit de l'huile, des olives, tout ce qui sent bon le sud. On dirait le sud, comme dirait Nino Ferrer.
Exactement, c'est bien ça. Moi, c'est Pedro et en fait, j'ai rencontré Michel Ibanez il y a environ une année ou deux. Et puis moi, je suis d'un autre domaine, hein, rien à voir avec ça. Et quand j'ai rencontré Michel, j'ai vu ses produits, j'ai vu sa qualité de travail, sa qualité de produit. Et j'aime bien manger, j'aime les meilleurs produits qui se font de régions et d'autres pays. Et c'est vrai qu'il m'a donné envie. Exactement, comme dirait Johnny. Hein? Et puis il m'a donné envie de pouvoir approcher ces produits-là. Et on a travaillé ensemble. Maintenant, ça fait quelques temps. Et je représente la maison libanaise, la maison du jambon. D'accord. Des produits qui arrivent de sa famille. Ils ont une ferme en Espagne. Des produits qui arrivent directement de sa famille. Son cousin qui est là-bas, qui est producteur. Et j'ai travaillé avec Michel Ibanez. Aujourd'hui, il n'est pas là, malheureusement.
On le salue,
c'est moi qui
Michel,
le représente.
Si
voilà. On le salue, on l'embrasse.
Qu'est-ce que tu mets en avant comme produit ? Eh, vas-y, explique-nous.
Alors,
j'ai vu un Serrano de 18 mois à 120 euros, je crois.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, j'ai mis deux produits en affiche. Alors, Serrano aragonaise, et puis avec 18 mois d'affinage, avec des produits dérivés qui va avec. Et surtout,
quels sont les produits dérivés?
Alors, il y a tout ce qui est olive, tout ce qui est fromage. J'ai mis du fromage si vous y êtes passé au stand, vous avez vu tout l'heure. Qu'est-ce que j'ai mis aussi en avant? Surtout, j'ai mis le biota. Hein, le biota qui mange exceptionnellement du gland, encore une fois.
Bien
hein,
sûr.
Hein, qui est élevé en plein air. Et aussi le pata negra, lui, mange du gland et de la châtaigne.
Alors, sachez que la réglementation en Espagne comme en France est à peu près la même. Sur un hectare, 10 000 mètres carrés, vous ne devez pas avoir plus de 21 porcs. C'est important
Exactement.
De le comprendre.
Exactement, oui, c'est ça. Alors, et du coup, je suis là aujourd'hui avec vous. J'ai rencontré pas mal de monde. Des voisins qui est très, très charmant, ça me fait plaisir et dans votre rencontre, je suis très heureux d'avoir fait votre rencontre.
Alors moi j'ai goûté le jambon, je dois dire que là c'est pareil, ça ne se mâche pas, ça se garde comme un chewing-gum en bouche parce qu'il y a des arômes, on sent vraiment le terroir. Il y a des saucissons, il y a des saucissons secs, enfin ce que l'on appelle les saucissons secs mais qui portent un autre nom en Espagne. Il y a des chorizo également qui sont un petit peu piquants avec ce piment, mais juste ce qu'il faut... bien dosé, il y a du lomo également.
Exactement, oui.
Alors, raconte-nous un petit peu tout ça.
Alors, tous ces
tranché, taglia fino fino, comme dirait
l'italien. Ah oui, exactement. Alors, bien tranché. Et c'est sûr que quand vous parlez du jambon et du gras, alors évitez de jeter le gras, hein, c'est très bon.
Il n'est pas blanc le gras, il est rosé.
Il est rosé, il fonce, c'est de la noisette. Hein, comme dirait Michel Libanès, quand ce jambon vous l'avalez, vous croisez Jésus. Et quand vous voyez Jésus, vous lui donnerez le bonjour de notre part. D'accord?
Oui.
Voilà, ça marche comme ça. Et je suis très heureux de représenter la maison libanaise aujourd'hui.
Bon, on est très heureux de vous recevoir aussi. Donc, vous pouvez acheter des produits sous vide, bien entendu. Il y a des petits plateaux de charcuterie tout près.
Oui.
Hein, avec un mélange. C'est bien meilleur que les cahuètes et les chips à l'apéritif. Vous ouvrez un plateau de charcuterie, vous mettez ça au centre de la table, une petite sangria, un verre de vin espagnol. Alors, il y a des vins magnifiques. Je pense à la Catalogne, au Penedès, je pense au Rioja, les Rioja normaux, les Rioja Alta. Vous avez également des Dom PX, des Pedro Jiménez qui viennent du sud de l'Espagne, exceptionnels avec ce fameux cépage, le Toro Albala. On est dans l'exceptionnel, on est dans l'excellent, on est sur des produits vraiment remarquables. N'oublions pas que l'Espagne, la France et l'Italie se partagent les trois premières places des pays producteurs de vin au monde, de très grande qualité. Et je reviens sur ce cépage de Pedro Jiménez, le Dom PX, qui est exceptionnel, avec des arômes, des saveurs de noisettes. Ouvrez une bouteille bien chambrée, et là sur un plateau de charcuterie avec du bon pain traditionnel, avec ce pain qui a le goût de levain, vous savez, avec un petit peu d'acidité, on sent la levure de bière, pas le pain fabriqué en grande surface, c'est le pain où on vous dit il est frais toute la journée. Oui, il est très frais, il est à moins 18, donc on le dégèle au fur et à mesure. La pâte est faite dans des bétonnières au bord de la route, 250 kg de farine, 150 litres d'eau, 2 tonnes de sel, enfin une catastrophe. Donc je voudrais vous demander d'être vigilant. Il n'y a d'Espagne que de bons produits chez Michel Libanès. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et vous avez Pedro qui est présent ici jusqu'à demain soir et qui vous fera goûter, déguster, puisque sachez que Michel Libanès n'est pas avare. Vous pouvez déguster avant de sélectionner un produit, comme on va essayer une voiture. Et d'ailleurs, pour le fromage, c'est exactement la même chose. Et pour le gâteau basque aussi.
Alors, ce journal a été mis en ligne il y a quelques minutes.
De tapas façon espagnole avec quelques olives.
Bonjour à tous, près d'un an après le début du mouvement et le des gilets jaunes, c'était le 7 novembre 2018. Et je suis persuadé qu'avec un premier bilan des blessures oculaires publié dans une revue scientifique. Blessures suspectées d'avoir été causées par les lanceurs de balles de défense.
Vous allez étonner tous vos amis.
L'étude a été menée par des médecins et chercheurs français auprès des hôpitaux français. Le résultat a été publié
de tout et de rien avec des
dans la revue médicale britannique The Lancet. Elle montre une explosion de ces blessures oculaires depuis le début de la crise des gilets jaunes. Delphine Evenou.
C'est une enquête rétrospective.
Vous êtes bien sur 98.4, votre radio préférée dans l'entre-deux-mers. Nous saluons Tonnin, nous saluons Aiguillon, nous saluons L'Aréole.
Et qui porte
vous n'avez que
sur
jusqu'à
3
demain
ans,
soir,
février 2016,
de ces produits de qualité.
Contre la loi travail.
Donc je le répète, il y a des
2019.
Épices, il y a des livres de cuisine, de pâtisserie,
de la rétine, fracture du visage, dommage au cerveau. Les chercheurs ont identifié 43 cas de blessures oculaires causées par des armes non létales, dont la moitié
sur le département 33
38 hommes. 5 femmes, âge moyen 26 ans. Au-delà du portrait robot,
vous avez également les chocolats
de
Monsieur Brossard, le fameux chocolatier,
deux cas recensés en 2016, non pas de France mais du monde, parce qu'il travaille
des fèves de cacao.
Mais 25
nous en avons parlé hier,
et 15
en attendant
cette année,
un petit morceau de musique, le ciel est beau. Et si vous êtes en train
de
déjeuner, bon appétit, mais si vous n'avez pas commencé, eh bien, venez nous rejoindre sur cette foire de l'Aréole, venez au village gourmand, vous allez vous rassasier, vous allez vous régaler.
Aujourd'hui, il y a même en Écosse, une assiette mobilisation proposée à 7 euros
avec une pomme de terre entière
il y a 4 ans. Pourtant, les Écossais disaient non au référendum, mais avec le Brexit, la question revient sur la table. Élodie Goulet,
vous avez compris, 7 euros.
Glasgow.
Moi, c'était censé être le vote d'une génération et pourtant, 4 ans plus tard, les Écossais pro-indépendance se mobilisent à nouveau. Parmi eux, Nicola Sturgeon, la première ministre et chef du Parti national écossais.
Jean Bomber,
malgré les 55% de vote pour rester dans le Royaume-Uni en 2014, le sujet est au cœur de la campagne électorale pour les élections du 12 décembre. Car depuis 2014, le contexte a changé. L'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne en 2016. Et Nicola Sturgeon le dit elle-même en ce moment, un vote pour le Parti national écossais, c'est un vote pour stopper le Brexit. Comprenez, en étant indépendante, l'Écosse pourrait rester dans l'UE. Lors de la conférence annuelle de son parti le mois dernier, la leader du SNP a affirmé vouloir reposer la même question. Est-ce que l'Écosse devrait être indépendante? Seulement pour ça, le gouvernement écossais doit avoir l'aval du Premier ministre britannique.
Un défi compliqué
si Boris Johnson reste au pouvoir. Et côté écossais, les partis conservateurs et travaillistes, eux, sont contre un second référendum. Ils souhaitent que le phrasé de la question soit examiné, ralentissant d'autant plus le processus. Mais le SNP semble déterminé. Nicola Sturgeon devrait demander l'aval de Westminster avant Noël pour un référendum en 2020.
S'il y a écrit Élodie Goulesque à Glasgow, les places militaires maliennes esselées sont de plus en plus ciblées par des effectifs djihadistes qui se sont
déployés
dans les
noms
du nord du pays, comme aux abords des frontières
des lettres de l'alphabet nigérienne. C'est bien pour apprendre à écrire à lire au gosse, mais c'est pas bon à mettre ça dans son corps. N'oubliez pas que ce que l'on met dans notre bouche va toucher nos organes.
Les assaillants descendent dans les canons avant d'approcher les sites militaires sur le bio.
Partout après.
Situation
eh bien,
sous contrôle selon
tant
Bamako.
De questions sur
plus
les façons
deux
dont nous
Français
vivons mal,
jouent
dont nous vieillissons
vidéo,
moins bien,
et
eh bien soyons vigilants.
De
nous
et
avons trois producteurs
les
ici avec
vidéo,
nous.
Ce n'est
venez
pas que
déguster
pour
leurs
en
produits,
effet,
vous allez vous régaler.
Moyen
allez,
un petit encart
musical encore.
Un petit
truc avec la SNCF.
Les seniors sont en effet de plus en plus amateurs de jeux vidéo à la Paris Games Week, le rendez-vous des fous de jeux vidéo qui se déroule cette semaine. Des joueurs un peu particuliers, ils ont entre 65 et 95 ans et sont venus faire des démonstrations. Le jeu vidéo et des vertus sur la santé des seniors leur fait aussi retrouver le goût du jeu. Jeanne Dossé, vous avez pu constater que ces gamers seniors se défendent très bien.
Manette à la main, Jean-Claude de 76 ans affronte un adolescent de 13 ans pour une partie de l'une version jeu vidéo. Et c'est Jean-Claude qui l'emporte, battre un jeune de 60 ans dans la nuit, ça ne le laisse pas indifférent.
On est content, mais c'est surtout la convivialité.
À côté, d'autres seniors font aussi une partie de bowling sur écran, genoux légèrement pliés, l'air concentré. Bernard fait un strike. Son secret pour faire tomber toutes les quilles, la précision.
Un millimètre à droite ou à gauche, ça y est, c'est fini.
Ouais, c'est bon pour ce soir. Cet ancien horloger, c'est de quoi il parle, d'autant plus qu'à 95 ans, ça fait déjà 2 ans qu'il joue aux jeux vidéo dans sa maison de retraite de Poitiers.
Si vous voulez me l'enlever, ça fait travailler le cerveau, ça fait une distraction. Vous savez, les personnages qui ont les toujours dans un fauteuil, ils ne peuvent pas regarder les autres, c'est pas
possible. Les jeux vidéo ont des bienfaits sur la santé des seniors, notamment ceux installés en Italie, qui sont les fondateurs de l'association Cyberpunk.
Monsieur Intel, qui sort jamais de sa chambre, on l'a vu sortir pour la première fois pour venir faire une partie de Wii U. Ou telle personne qui ne se mettait jamais debout s'est mise debout pour pouvoir jouer dans le monde. On a tout un tas de témoignages comme ça, qui corroborés avec la recherche montrent que ça a un impact sur la santé.
Envie de garder la forme, tout simplement de s'amuser, peu importe la raison, la fièvre du jeu vidéo gagne les seniors. Selon le syndicat des éditeurs des logiciels de loisirs, en France, la moitié des plus de 65 ans jouent régulièrement.
Alerte au vent de l'onde de la Charente, des Nantes, Pyrénées-Atlantiques, de Sèvres et la Vienne.
Bonne journée. réserve comme un léopard.
Vous êtes sur 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers, les allées de la foire de l'Ariel où nous trouvons.
Je me suis frotté les yeux, séché pire que pas mieux. Il pleuvait des fourmis coiffées de bigoudis. J'ai couru chez Galerès, elle m'a dit que je
fasse.
Le sorcier d'un côté va te réfugier.
Depuis le début de cette émission, j'ai trois invités. J'ai le gâteau basque, le fromage de brebis, façon basque bien entendu, et pas façon béarnaise.
Là, je suis dans les idées, la tête dans les nuages, je me dis qu'il nous guette, c'est dans les marques.
Oui, mais la pâte, il y a une pâte, la pâte du basque est plutôt lisse.
Il m'a servi un thé dans un affreux cocktail, qu'un gamin énervé tenait entre ses pieds, puis il m'a enveloppé de feuilles de bananier. Asperger, ma télé, d'ailleurs, de Simon Frère.
Du Thierry.
Oui, 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 tout à fait.
Le lait. Et du coup, ben, il
y a la température de la carrosserie de finale.
Les acides aménés du notarisé vrai. Il disait que demain, grâce au généticien, des vaches en se laisser mettre étabellées.
Il y a très peu de petites... Il n'y a que des lénures, comme on dit à l'intérieur.
Il y a ce genre aussi de la température et l'hygrométrie.
Oui, la température de l'hygrométrie est affinée dans le cas de 13-14 degrés.
Je suis dans les idées, la tête dans les nuages, je veux dire qui nous guette, c'est le rage
de ma crainte. Il y a l'intérieur de la croûte, entre la croûte naissante et la pâte pressée cuite. Ton fromage, quel conseil donnerais-tu quand on achète ton fromage? On en a une tranche, on en a un morceau. Comment faut-il faire pour le conserver?
En marchant au plafond, j'ai ferré un poisson, faisant des prédictions dans des bulles de savon. Il y a dans un aquarium un drôle de petit bonhomme. Il traîne des semelles de plomb, n'a pas de conversation.
J'ai fini Régima en plein Kamasutra. Je me suis réveillé dans ma vapeur.
Ma
diagnostique, une fille de fantaisie. Trop souvent enfermé dans la banalité.
À peine humidifié et trempé dans de l'eau salée. Modernes sont équipés de ce genre de choses.
C'est ça. Bah, c'est pas ça, c'est que les fermes avant avaient des vieilles granges, toujours des granges en terre battue. Maintenant, avec les normes isolation, il n'y a plus d'air 40 dans les maisons.
Donc, oui.
C'est soit il fait 40, soit il fait moins 8. Quoi.
Je précise qu'il n'y a pas de TLC sur ce genre de fromage. On peut le garder 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'a absolument aucun sens. Non, mais regarde, par exemple, tu prends le parmesan. Le Reggiano, je ne parle pas du Granada. Et le Reggiano, c'est 36 mois d'affinage. 3 ans. On peut le garder, on arrive à avoir des parmesans de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Donc c'est de la matière sèche qui reste.
C'est pas trop donné ouais, comme ça depuis que t'es né. C'est qu'au fond de mes maisons sont jaloux. Car sonner si boulot, ils n'ont pas su le demeurer.
Alors, le fromage en bouche, en vieillissant, se saponifie. Il a ce goût de savon. Mais moi, que je trouve très bien, est-ce qu'on peut le râper sur des pâtes, sur du riz, sur un risotto, sur des nouilles, sur des coquillettes, sur des coquillettes, des petites coquillettes, des pâtes, des pâtes, des jambons. Mais vous râpez un morceau de fromage de brebis très très vieux.
Mais nous, tous les hachis, on n'est pas du tout, on veut ça.
Mais bien sûr. Exactement. Plutôt que d'acheter le cœur de moule, vous savez, là, le truc, là, le président, ce cœur de moule, alors, je suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il faut du reste du fromage? On moule des moules qui font 90 kg, on prend le cœur. Le cœur, ça fait aller. Le cœur du fromage, ça fait le quart du poids. C'est-à-dire 20 kg. Et les 60 kg, on en fait quoi? On en fait du cœur de moule aussi, hein, c'est pour pas croire. Hein.
Oui.
Non, mais veux dire, tout ça, c'est du marketing. C'est de la publicité. Et le marketing commence par la même lettre que mensonge. Donc, le cœur de lune, pour moi, n'a jamais été un. Ton gâteau basque, pour le conserver, on peut conserver combien de temps? Parce qu'il est quand même gros, il est très épais, fait combien de hauteur?
Jusque chez toi, et c'est comme ça, et c'est ainsi qu'il en a toujours été, et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est pas aujourd'hui que ça va changer.
c'est-à-dire un papier alimentaire, 4 jours à température ambiante, c'est-à-dire entre 15 et 18 degrés. Au-delà de 18 degrés, on a quand même des saisons très chaudes au Pays Basque. Vous le mettez, pareil, en bas du réfrigérateur, mais vous le ressortez un quart d'heure, 20 minutes avant la dégustation.
D'accord, pour qu'il reprenne sa température.
Exactement, et qu'on retrouve bien tous les goûts et que la crème pâtissière, on met du rhum nous, dans notre crème pâtissière pour donner du peps. Hein, c'est aussi, mon amatchi faisait comme ça. Donc on y met du rhum. Pour retrouver toutes ces saveurs, il faut le sortir un quart d'heure avant. Mais moi, je conseille quand même de le garder à température ambiante. Ça se garde très très bien, 3 à 4 jours après la date d'achat. Voilà, après le jour de l'achat.
Attends, sachez que les œufs sont cuits quand même. Hein,
oui, tout à fait.
La crème a été à ébullition.
Oui, oui.
Donc il y a eu une certaine pasteurisation naturelle des jaunes d'œufs pour la réalisation de cette recette. Ce que tu viens de dire est important, de le sortir un quart d'heure, et pour le fromage c'est pareil. Il ne faut pas le manger à la sortie du réfrigérateur. Il faut le manger, je dirais, à température ambiante. Donc le faire huiler sur une table, ça c'est pas bien, je le confirme. On perd toutes les saveurs et c'est vraiment pas beau. Ça prend des couleurs abominables et puis ça n'a plus de goût. Ça se renforce en sel, on enlève le gras. Bref, mais le fromage, comme le gâteau, température ambiante. La charcuterie, par contre, le découpage est important. Il faut que ce soit fin, il ne faut pas des tranches épaisses.
Exactement, oui. Exactement. C'est pour ça qu'on conseille de...
D'avoir de bons couteaux.
De bons couteaux et qu'ils soient bien affûtés. Et qu'on puisse faire des tranches assez finement.
Bien entendu, faire des tranches fines, ça ne veut pas dire qu'on est radin.
Non.
C'est tout simplement pour l'apprécier.
Exactement, que le palais puisse rencontrer toutes ces saveurs.
Toutes ces saveurs de terroir. Et donc, je sais qu'il existe dans le commerce des machines. Certains sont peut-être équipés de petites machines électriques ou manuelles pour trancher. N'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi. Mais faites attention de ne pas vous couper parce que quelquefois ces machines sont plus ou moins
dangereuses.
Oui, parce que une machine professionnelle, ça vaut plusieurs milliers d'euros, ne l'oubliez pas. Donc quand vous achetez une machine électrique à 25 ou 30 euros ou 40 euros chez Darty ou chez Boulanger, vous n'en aurez que pour 40 euros TTC. Vous enlevez la TVA, ça fait 8 euros de TVA, ça fait 28, 32, le transport, la marge du commerçant, vous avez 10 euros sur la table, quoi. Donc le prix du saucisson que vous avez acheté. Donc soyez vigilant. Température de service d'une charcuterie, pareil, on remet un peu à la température.
Exactement, moi je préfère comme ça, je préfère sortir un petit peu avant du frais. Je la mets à température ambiante, 10-15 minutes avant, et puis j'attaque comme ça, quoi, vous voyez.
D'accord.
Je la préfère, moi, moins température ambiante.
Température ambiante.
Ouais.
Avec ton gâteau basque, qu'est-ce que tu nous conseilles comme vin ?
Ah.
Là est alors, la question. toi, qu'est-ce que tu aimerais? Alors, on est à la fin d'un repas ou on est... Alors, bien entendu, si c'est à la fin d'un repas, ça, c'est différent de l'encas du 4 heures, je dirais, voilà. du cup of tea. Donc là, après un repas, qu'est-ce que tu conseilles?
Alors, moi, j'apprécie le gâteau basque plus en goûter qu'après un repas, j'avoue. Parce que le gâteau basque est quand même un gâteau...
consistant.
On va dire ça, voilà. Donc, moi, je suis une fervente du champagne.
Alors, le champagne, bien entendu, est un vin pétillant, enfin, un vin effervescent qui se marie avec absolument tout.
Voilà.
Donc, on peut faire un repas tout en champagne. Donc, le champagne est un vin de fête. Et vous avez les producteurs sur la foire de la Réole, entre 12 et 15 euros. Vous avez des champagnes bruts de très belle qualité, très belle facture. Et autrement?
Ben avec un blanc liquoreux. Moi je ne suis pas adepte de ces vins, mais c'est vrai qu'avec un blanc liquoreux, ça peut être très très bien aussi.
Alors, un blanc liquoreux ou un blanc moelleux, quelques conseils. Nous sommes à la Réole, donc on n'est pas loin de Cadillac, on n'est pas loin de Sauternes, on n'est pas loin de Barsac. Nous sommes pas loin également d'une appellation qu'on a tendance à oublier, qui s'appelle le Bordeaux supérieur blanc. Le Bordeaux supérieur est un vin moelleux. Vous avez les graves blancs supérieurs également qui sont liquoreux. Maintenant, si vous avez envie de vous faire un vrai plaisir, vous avez des vendanges tardives et des grains nobles qui viennent d'Alsace, Riesling, Gewürztraminer, mais vous avez surtout le roi des vins, il y en a deux pour moi, les vins liquoreux. Le Sauternes, un peu gras, un peu trop présent, un peu trop texturé. Je vous conseillerais un vin sud-africain. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde de rugby. C'est le Klein Constantia ou le Kraut Constantia. Ville de Constance. Demi-bouteille de 50 centilitres avec un cépage très particulier puisque l'Afrique du Sud s'est peuplée avec les guerres de religion, plus particulièrement après la révocation de l'édit de Nantes en 1687, lorsque les protestants ont fui l'Europe de l'Est et sont venus en France. Et ils sont arrivés en Alsace avec le foie gras. Et le Klein Constantia donc est un cépage de raisin très particulier, puisque pour brouiller les pistes, et pourquoi Klein Constantia? Parce que la première épouse du premier gouverneur de Sa Majesté de Hollande qui avait colonisé l'Afrique du Sud, les Hollandais, elle s'appelait Constance, et c'est pour ça qu'on appelait la ville Constance. Et comme ils avaient transité par la vallée de la Loire, ils avaient piqué du chenin. Le chenin, c'est un cépage blanc qui donne naissance au quart de chaume, au coteau du Layon, des vins exceptionnels. Et puis, ils ont ramené ce cépage en Afrique du Sud et ils l'ont baptisé le vin Klein Constantia, mais le cépage, ils l'avaient baptisé le petit... Attendez, je vais vous redonner le nom. Le Little Steen, voilà. Si vous voyez sur la bouteille du Little Steen... Eh bien, on va se retrouver avec du chenin blanc, mais également un vin liquoreux exceptionnel produit dans le monde entier. Dans le monde entier, non, il y a 3 pays dans le monde qui ont le droit de produire un vin qui s'appelle le vin de glace, Eiswein, l'Autriche, l'Allemagne et le Canada. Si vous avez la chance de rencontrer, de croiser un jour un vin de glace exceptionnel, un nouveau pays est venu se greffer sur ses productions de vin de glace. C'est la Roumanie qui est en train de présenter un vin qui s'appelle le Pennsylvania avec des cépages de Chardonnay, mais qui n'a pas l'autorisation officielle du monde entier, puisque pour le moment, il n'y a bien que 3 pays qui produisent du vin de glace. Esther est à côté de moi et elle me parle effectivement d'un vin que j'allais peut-être oublier, un vin qui peut être moelleux et liquoreux à la fois, c'est le Tokaj. Le Tokaj qui reste un vin exceptionnel qui vient de Hongrie, de la ville de Tokaj qui veut dire vin en hongrois. Pourquoi le Tokaj? Eh bien parce que ce Tokaj est issu de la première classification de vin du monde en 1733, mais non officialisée. La première classification des vins est française, elle date de 1855, elle était officialisée en 1936, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Le Tokaj est classé en Poutonios. Alors le Poutonios va de 3 à 6 maximum. 3 à 6 Poutonios maximum. Je suis désolé, ma petite Esther, tu n'as pas les bonnes références. Au-delà de 6, ça devient de l'essentia. Alors, le Poutonios, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une hotte que l'on se met dans le dos. Dans cette hotte, on met 15 kg de raisin. Donc, quand on a 3 Poutonios, c'est 45 kg de raisin. 4 Poutonios, 60 kg. 75, 90. Je m'explique. Vous faites un vin traditionnel, vous prenez 100 litres de vin blanc, le vin blanc liquoreux, le Tokaj, Atsu, A-T-Z-U, est produit donc dans cette région de Tokaj, est produit à raison de 100 litres. Pour 100 litres de vin blanc sec, on va rajouter 3 Poutonios de pourriture noble, de botrytis cinera, c'est-à-dire de raisin botrytisé. Et là, on va s'apercevoir que plus on rajoute, plus il sera sucré. C'est-à-dire plus on rajoute 45 kg, 60 kg, 75 kg, 90 kg, donc c'est un degré de sucre. Après, on a une classification d'essentia, c'est-à-dire que vous prenez 150 kg de grains de raisin égrappés, vous les mettez dans une cuve avec des trous dessous des passoires, et vous laissez le jus s'extraire tout seul des grains de raisin par le pédoncule qui a été retiré. Sur 150 kg de raisin, on retire 1,5 litre de jus. C'est-à-dire qu'on ne presse pas le raisin, c'est interdit. C'est seulement le jus qui coule par le petit pédoncule que l'on récupère. Le nectar que l'on en retire, il y a autant de différence qu'entre une eau de toilette et un parfum. C'est du parfum de vin. J'ai des essentia de 47 présentés dans des petites bouteilles de 2 000 litres. C'est une véritable tuerie. Bien entendu, on ne parlera pas de prix, mais la qualité n'a pas de prix. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc le Tokaj Atsu, de 3 à 6 Poutonios, désolé Esther, l'essentia pur, jus de non-pressage, là c'est important. Le vin de Constance, le Klein ou le Kraut Constantia, Au départ, le vin s'appelait Kraut Constantia, parce qu'en langage afrikaans, ça voulait dire la grosse constance. Les femmes à l'époque étaient opulentes, mais son ex-gouverneur, il n'y a pas d'ambassadeur, le mot n'existait pas, a décidé de débaptiser ce vin pour l'appeler Klein, en l'honneur de son épouse, pour lui dire voilà, la petite constance. Les vendanges tardives d'Alsace, les vins de glace. Alors j'aimerais également citer un vin qui n'est pas un vin. Alors vous allez me dire, je suis complètement barjo, complètement barré. C'est du cidre de glace qui vient du Québec et du Canada, où on fait du cidre tranquille, non pétillant, avec des pommes congelées. Et je peux vous assurer que là, on est sur des summums d'exactitude, de rectitude, de perfection. C'est des vins, c'est des boissons horlogères, comme dirait la ville de Besançon, capitale de l'horlogerie en France, une ville horlogère. Voilà, vous avez compris, des vins moelleux, mais pourquoi pas un poiré sur un gâteau basque. Un poiré, qu'est-ce que c'est? C'est du cidre de poire. Ça fait 3 degrés d'alcool, avec la cerise et la poire. Quel mariage! Mais quel mariage également si vous faites vous-même vos gâteaux avec les fruits du jardin, du potager, avec ces fruits mûrs à souhait, gorgés de soleil, gorgés de bonheur, gorgés de perfection, voilà. Le mot de la fin, ça sera pour vous. J'aimerais que vous me disiez un petit mot tranquille sur ce que vous faites, sur cette passion. Parce que j'ai 3 passionnés avec moi. J'ai 3 passionnés et je le dis très régulièrement. La passion, c'est la force de croire. Et nous, en radio, eh bien, aussi on y croit. On y croit, cette radio de l'Entre-deux-Mers, qui est à Sauveterre de Guyenne, mais qui se déplace, qui est à votre disposition, qui est une radio de proximité, qui est une radio qui reste à votre écoute, qui est une radio faite pour vous, pas pour nous. Nous, on ne se fait pas plaisir à nous, on veut vous faire plaisir et vous dire on vous aime. Alors, je vais commencer par le producteur de fromage. Non, on a commencé par Nathalie, qui a été notre guide. Rappelle-moi ton prénom. Chomi. Chomi, ça c'est basque. Donc il y a un X au milieu.
Ouais.
Mais le X,
c'est un basque né à Bordeaux, quoi.
Mais peu importe, tes racines sont basques.
Ah oui, elles sont basques.
J'aimerais que tu nous donnes, allez, en 2 minutes, que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais, de ce que tu penses. Et je crois qu'il y a une 3e génération, c'est ta fille.
Ouais, et bien du coup, oui, ça fait...
Quel âge elle a?
Ma petite, elle a 12 ans. 12 Mon ans. Grand 13 et le dernier 7.
Un trio gagnant.
Voilà. Bon, ben pleine de vie et voilà. Et après, oui, ce qu'on veut juste, c'est reprendre l'exploitation familiale.
Si c'était à refaire.
Les enfants? Moi, j'arrête là.
Ah non, non, non.
Ah, l'exploitation?
Oui, l'exploitation.
Ben non, je changerai pas parce que je pense qu'on a l'identité qu'il nous faut et la passion qu'on a et le travail qu'on mérite. Tout simplement. Du coup, après, il faut pas compter les heures, il faut aimer sa passion et aimer rencontrer les gens et surtout grandir un peu. Parce que mon père n'était pas du tout dans cette optique-là. Du coup, il préférait rester solitaire et vendre son fromage comme ça à la maison. Ou comme
c'était
ça.
Une autre génération
voilà,
aussi.
Ben après, je comprends.
Il avait connu une guerre aussi.
Il est né en 60, donc du coup, c'est pas la même génération.
Il est né en 60. Il a connu la fin de la guerre d'Algérie. Donc,
voilà. Mais bon, après, c'est quand même lui qui m'a tout transmis et je le remercie. Et voilà,
Vous êtes dans la transmission du savoir et c'est ça, c'est important. C'est ça. Il faut que cela perdure.
Après, moi, j'ai fait l'école, donc j'ai passé un bac pro et un BPREA du coup.
Quelle école tu as fait de fromagerie?
J'ai fait le lycée Oloron-Sainte-Marie à Souesch, le lycée agricole.
Lycée agricole. Il y en a un autre également à Mamirol.
Ouais. Il y en a aussi dans l'Aveyron.
Oui, il y en a dans l'Aveyron, donc dans des régions productrices de fromage. Voilà. Et il y a Mamirol. Et d'ailleurs, l'école a créé un fromage qui s'appelle le Mamirol.
C'est ça.
À base de lait de vache pasteurisé, mais qui est ma foi, croûte un petit peu mi-lavée entre le porc salut et le fromage de vache traditionnel. Donc il y a des écoles agricoles, des écoles où l'on apprend ces métiers durs, ces métiers, je le répète, des métiers de couple. Parce que là, il faut que le couple soit impliqué dans l'exploitation.
Et on est deux, du coup, et elle aime ce métier, et elle est à fond dedans. Donc,
je la connais, elle est adorable.
Voilà. Du coup, elle veut aussi venir à la montagne l'été, elle veut continuer ça, elle veut qu'on travaille tous les deux, du coup c'est que mieux et voilà, on en ressortira encore plus
grand. Est-ce que ce n'est pas parce que tu vis avec 500 brebis qu'elle a peur?
Et je sais pas, non, je pense pas parce qu'elle était plus dans la chèvre, mais du coup elle s'y est mise vachement. Et voilà, après j'ai eu l'avantage de faire l'école et mon père avait jamais fait d'école, du coup il.
Ça n'existait pas à l'époque.
Voilà, et du coup, mais il m'a appris son.
C'était l'école de la vie.
Il m'a appris son savoir-faire et moi je lui ai appris un peu les termes techniques de l'école et puis à deux, ben voilà, ça fait 8 ans et on grandit encore plus chaque jour. Hein. Du coup, l'année prochaine il prend
sa
retraite.
J'aime bien, on grandit chaque jour.
Ben oui,
et puis, on n'arrête pas de grandir.
Mais bon, il sera toujours là quand même. gentiment, juste pour nous épauler un peu, nous dire des fois quand ça va pas et quand ça ira, quoi.
Bien sûr. Voilà.
Et puis j'espère que les gens continueront à faire l'effort sur la transhumance et des foires comme ça que ça
continue.
Et l'effort
de faire travailler des petits producteurs. Voilà. Alors petit, j'aime pas le mot parce que c'est péjoratif, mais des producteurs traditionnels. Voilà. Et ça, c'est important.
Et artisanal surtout.
Exactement. Nathalie.
Eh bien, quoi dire d'autre ? Nous, au Pays Basque, on aime la tradition, on est attaché voilà, aux choses vraies. On aime cultiver la terre, on aime faire nos gâteaux. Moi, j'aime particulièrement les gens. Cette reconversion, j'en suis très, très heureuse parce que, justement, tous les jours, on rencontre des gens de tout horizon. J'ai eu, moi aussi, des Canadiens, des Hindous qui sont repartis avec des gâteaux basques dans des containers, enfin, des choses un peu improbables, des Marseillais qui prenaient des plaques entières. Et puis, ben voilà, c'est tout mon bonheur, c'est de voir les gens revenir d'une année sur l'autre. Je prends l'exemple de Cambo-les-Bains. Il y a des gens qui viennent se soigner. Et puis aussi, ils viennent se soigner avec mon gâteau, finalement.
Parce que bien sûr,
ils repartent avec une petite part de gâteau. Voilà, et c'est que du bonheur.
Et avec un maquillage.
Parfois, oui, là, il faut aller à la ressort. Hein. Vous avez un grand maître des maquillas à la ressort. Hein.
Oui, il y en a. J'ai vu des maquillas. Voilà. C'est quelque chose d'absolument
exceptionnel. Ah, c'est magnifique.
Exceptionnel. C'est du néflier. Puis le travail, sélectionner les essences de bois, du robinier notamment.
Oui, du néflier également. Néflier. C'est un bois que l'on... Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais c'est un bois que l'on laisse... on le coupe et on le laisse 10 ans avant de pouvoir le travailler. Donc quand vous recevez un maquila, d'ailleurs on ne s'achète pas un maquila, Gérard, si un jour tu veux un maquila, il faut te le faire offrir.
Oui,
voilà.
D'accord.
Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est pas un objet qu'on achète, c'est un objet que l'on se fait offrir.
J'en ai offert un de maquila dans ma vie, une fois à Laurent Cabrol, quand il a quitté TF1 il y a une dizaine d'années. Je lui ai commandé un maquila personnalisé et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui marque une vie.
Tout à fait.
C'est absolument merveilleux et exceptionnel. Merci en tous les cas à vous deux d'être venus à notre rencontre.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu à la Réole. L'année prochaine, ce sera encore mieux organisé, mieux fait. Donc, deux producteurs de gâteaux basques, producteurs de fromage. Est-ce que tu as l'intention de faire des yaourts ?
On est en projet là, du coup on attend déjà l'année prochaine que mon père arrête, qu'on s'installe vraiment avec ma femme là au mois d'avril, parce qu'on va monter un geg du coup. Et voilà, du coup c'est notre projet à venir parce qu'on a déjà essayé pour nous et c'est vrai que
c'est
plus que remarquable.
C'est vachement bon
le yaourt au lait de brebis
avec un peu de cerise basque, de confiture.
Ouais, mais on a essayé même juste comme ça nature.
Ah, non, nature. Après on l'aromatise.
Ah oui, après on l'aromatise, c'est ça.
Ne pas les préparer aromatisés, nature.
C'est
nature,
ça.
Nature.
Et c'est pas ça, c'est que c'est très consistant et le goût surtout, quoi. Parce que nous, on ne met pas d'engrais, pas d'ensilage, on fait que du foin et de l'herbe.
Ah
du
là,
coup, le lait est remarquable et du coup, je pense que le yaourt sera de même. Du coup, c'est notre futur projet.
D'accord. Alors, si vous faites des yaourts, on peut venir acheter du lait si on veut chez toi.
Du coup, il faut nous le dire parce que on a un réseau là sur Facebook et tout, du coup, et il faut le réserver parce que du coup, on fait la traite de février à juin.
Février à juin, donc voilà. Pendant les traites de février à juin, si vous voulez acheter du fromage ou même du lait cru traditionnel,
voilà,
donc mais attention, il ne faut pas habiter à 250 km hein, parce que sinon vous allez faire du beurre.
Et on a l'autre projet aussi, c'est parce qu'on faisait du crottin de chèvre, du coup là les petits cabécous en brebis. Du coup.
D'accord.
On va essayer les premières traites.
Est-ce que tu as essayé de faire du beurre avec la crème ?
J'ai jamais essayé. Non. Après, on a déjà beaucoup de travail, du coup.
Bien sûr.
C'est déjà des grosses heures de travail.
Bien sûr.
Mais du coup, les petits fromages de chèvre là en brebis, c'est déjà. L'année dernière, on a fait quelques-uns, du coup, on a eu de très grosses retombées. Et puis, ça part comme du petit pain, du coup. On en avait fait 200 ou 300, mais on en a vendu en 4-5 jours. Du coup, voilà, on va essayer de produire un peu plus ça et essayer de faire quelques yaourts, et voilà.
D'accord.
On va continuer gentiment. Ouais.
On avait un producteur de charcuterie. Tu auras le mot de la fin.
Ok, écoutez, on a bien parlé de Michel Libanez. Et j'aimerais dire aussi tout simplement pour tous ceux et celles qui écoutent aujourd'hui, je suis Pedro, c'est la maison du jambon. Tout est bon chez Pedro, d'accord ?
D'accord.
Et je vous souhaite une bonne journée et passez me voir, vous ne serez pas déçus.
Merci à tous les auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers d'avoir écouté cette émission C'est beau, c'est bon, 98.4. Nous vous souhaitons un excellent week-end. On vous fait des gros bisous, des gros câlins. Et puis ce soir, allez, faites l'amour, ça fera plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir de se faire du bien. Et il n'y a pas de raison quand on s'aime. Bisous, Métrognon, moi je vous aime de tout mon cœur. Bisous.